Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Dans le prolongement des leçons données l'an dernier sur humanisme et ritualisme en Chine ancienne et contemporaine, Han Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, donne cette année un cours intitulé Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde, dans lequel elle traite d'une notion qu'elle nomme le continuisme anthropocosmique de la culture ritualiste chinoise, c'est-à-dire la croyance dans la continuité entre le cosmos et le monde des humains. Pour les Chinois, ce continuisme définit une forme d'universalité. Dans ce contexte, la question de la piété filiale est centrale. Sans doute, cette vertu est-elle célébrée partout dans le monde. Ainsi, dans le Décalogue, le fameux « Honore ton père et ta mère ». On connaît également la fameuse histoire de la charité romaine, rapportée par divers auteurs anciens, qui la présente comme un acte exemplaire de piété filiale, dans laquelle une fille vient donner le sein à son père emprisonné, condamné à mourir de faim. Mais en Chine, la piété filiale prend une dimension presque métaphysique. Elle devient l'équivalent du Tao, de la voix. Toute une littérature célèbre cette vertu cardinale, jusque dans ses pathologies. Han Cheng a évoqué notamment le très célèbre recueil des 24 exemplats de piété filiale qu'on trouve déclinés sous toutes les formes jusqu'en bande dessinée pour les enfants. Voici ce qu'on y trouve. Sous la dynastie Qin, un jeune garçon dont les parents n'avaient pas de moustiquaire imagina à l'âge de 8 ans de rester parfaitement tranquille une nuit entière pour que tous les moustiques de la maison s'attaquent à lui afin de laisser ses parents dormir en paix. Autre histoire encore, celle d'un adolescent qui vivait avec une méchante belle-mère. Cette marâtre aimait beaucoup les carpes. Or, vu l'impossibilité de s'en procurer en hiver, l'enfant ôta ses vêtements et s'étendit nu sur la glace de la rivière. Deux carpes percèrent la glace et la belle-mère put ainsi satisfaire sa gourmandise. Ce matin, Han Cheng poursuit son analyse et montre comment la piété filiale vient aussi structurer l'espace politique. Écoutez.
La source qui a fait de la piété filiale une valeur universelle, au sens propre du terme, est sans doute le livre canonique qui porte son nom, à savoir donc le livre de la piété filiale, en chinois Xiaojing, qui est un ouvrage assez court, fait de formules martelées, on ne peut pas dire que cet ouvrage se distingue par son style littéraire, c'est quelque chose d'assez pesant. Il a été traditionnellement attribué donc à Zengzi, un disciple de Confucius réputé pour sa piété filiale. Alors, la datation donc de ce livre de la piété filiale, comme la datation de la plupart des compendia ritualiste dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps, est sujette à controverse, mais le consensus qui prédomine parmi les historiens actuellement est d'en situer la compilation à l'époque Han, c'est-à-dire donc dans les quatre siècles qui ont entouré le tournant de l'ère chrétienne, donc deux siècles avant, les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Et certains historiens en font même carrément une invention des Han, autrement dit une sorte de compilation qui a été faite pendant les Han et qui a été motivée assez clairement par des considérations d'ordre idéologique, comme on va le voir. En tout cas, on peut dire que c'est ce Xiaojing, donc ce livre canonique de la piété filiale, hein, ce terme de Jing que nous avons déjà rencontré à propos des autres livres du corpus canonique confucéen, donc qui en quelque sorte canonise ces ouvrages. Ce livre de la piété filiale est celui qui donne une dimension véritablement métaphysique à la piété filiale, au Xia. Et on pourrait même dire que dans ce livre, la piété filiale apparaît comme une sorte d'équivalent du Tao, hein, c'est-à-dire de la voix carrément. Hein. Et c'est pour ça qu'à partir de là, on a parlé couramment du Xiao Tao, hein, c'est-à-dire donc de la voix de la piété filiale. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît très clairement à la section Sancai du Xiaojing. Les Sancai qui désignent donc les trois puissances cosmiques, ciel, terre, homme, tian di ren, dont il était question donc dans le chapitre Tianlun, le chapitre consacré au ciel, du Xunzi que nous avions lu l'année dernière. Et je rappelle rapidement justement ce passage du chapitre dédié au ciel dans le Xunzi, où vous aviez donc cette évocation de cette triade cosmique. Tian yu qi shi, di yu qi cai, ren yu qi zhi. Fu shi zhi wei neng can, c'est-à-dire donc le ciel a ses saisons, donc la terre a ses ressources et l'homme a son ordre, hein, son ordre notamment politique. Et c'est ainsi que ces trois entités peuvent former donc un tsan, c'est-à-dire une triade. Tsan qui est une autre forme du mot san qui veut dire trois. Donc dans le Xiaojing, vous avez un passage qui s'intitule donc les Sancai, donc ces trois entités cosmiques, et qui est un rappel de ce que nous trouvons dans le Xunzi. Alors ce passage dit ceci. Il commence par une exclamation du disciple Zengzi, donc de ce disciple à qui est attribué le livre de la piété filiale. Zengzi yue, shen zai, xiao zhi da ye. Donc, ce disciple s'écrie ah, comme elle est illimitée, la grandeur de la piété filiale. Et ensuite, vous avez un propos qui est placé dans la bouche du maître, c'est-à-dire de Confucius. Zi yue, fu xiao, tian zhi jing ye, di zhi yi ye, min zhi xing ye. En effet, la piété filiale, c'est ce qui fait le jing, c'est-à-dire la constance du ciel. Et là, vous retrouvez donc ce terme de jing, qui tout à l'heure justement désignait donc un livre canonique. Mais c'est, la canonicité est faite, justement, en fait, vient du fait que c'est un livre qui représente une constante. Je rappelle que Jing, ici, c'est un mot qui comporte la clé de la soie et qui représente donc la chaîne du tissu. Hein. Vous avez cette métaphore textile pour désigner donc un texte canonique, puisqu'il désigne la chaîne du tissu. La piété filiale, donc, poursuit Confucius, Ti zhi yi, c'est ce qui fait le sens du juste de la terre, et Min zhi xing yi, la bonne conduite des, littéralement, du Min, c'est du peuple, mais on peut dire en fait ici des hommes, Min étant l'équivalent du Ren, c'est-à-dire de. Des êtres humains que vous aviez dans la citation du Xunzi. Alors, Tian di zhi jing, er min shi zhe zhi, ce qui fait la constance du ciel-terre, les hommes le prennent comme modèle. Zhe tian zhi ming, 因地制宜，以顺天下。Donc, ils prennent modèle sur la lumière venue du ciel. Alors là, il est fait référence au soleil, à la lune, enfin tout ce qui produit de la lumière dans le ciel. Ils s'adaptent aux bienfaits de la terre de façon à shun tian xia, être littéralement dans le mouvement de ce qui est sous le ciel, c'est-à-dire donc d'être en conformité avec le monde. Donc là, j'attire votre attention justement sur ce terme de tian xia qui va bientôt nous occuper. Shi yi qi jiao, bu su er cheng, qi zheng bu yan er zhi. C'est ainsi que les instructions, sous-entendues donc des souverains, rois de l'Antiquité, n'ont pas besoin d'être sévères pour être appliquées et que leur gouvernement n'a pas besoin d'être intransigeant pour que l'ordre règne. Autrement dit, ici, il y a quelque chose qui s'installe, qui procède de manière naturelle sans que qu'on ait besoin justement d'intervenir de façon autoritaire. Alors, Xian Wang, Tian Jiao Zhi, Kei Hua Mi Ye, Shigu, Xian Zhi, Yi Bo Ai, Er Min, Mo Yi Qi Qin. Les anciens rois, voyant la capacité de leur instruction à transformer les hommes, en conséquence, donnèrent la priorité à l'extension de leur bienveillance. Et il ne se trouva personne pour abandonner ses parents. De la même façon, Chen Zhi De Yi, Er Min Xing Xing, donc ils montrèrent aux hommes la vertu et le sens du juste, et le peuple s'activa à les pratiquer. Xian Zhi Yi Jing Rang, Er Min Bu Zheng, donc ils mirent en avant le respect et la courtoisie, et les hommes ne furent pas tentés de se battre entre eux, de rivaliser entre eux. Tao zhi yi li yue, er min he mu. Donc, ils les guidèrent par les rites et la musique, et le peuple resta dans l'harmonie et la concorde. Shi zhi yi hao e, er min zhi jin. Ils leur firent voir le bon et le mauvais, et le peuple comprit donc la raison donc des interdits, ce qui était prohibé. Donc vous avez ici l'expression bien sûr de cet idéalisme confucéen, hein, donc qui vous donne une vision extrêmement idéalisée donc de la société selon l'idéal confucéen, mais vous voyez aussi donc cet effort d'intégrer donc l'ordre humain dans l'ordre cosmique que nous avions vu déjà dans le Xunzi en particulier et les sources ritualistes de la fin de l'Antiquité et de l'époque Han. Donc nous voyons dans ce passage du Xiaojing, de le livre de la piété filiale, une extension de la triade cosmique du Xunzi appliquée donc à la piété filiale. Mais je vous rappelle aussi que nous avions vu dans le Xunzi, au chapitre consacré au rite, le Li Luan, que le Xunzi distinguait trois racines ou trois fondements des rites. Et j'avais attiré votre attention justement sur cette notion de pan ici, donc, c'est-à-dire donc cette le caractère de l'arbre avec un trait en dessous pour indiquer donc ce qui est à la base de l'arbre, c'est-à-dire la racine. Donc, le texte du Xunzi nous disait que les rites liés au Sanpen, c'est-à-dire donc les rites, ont trois racines, à savoir donc le Tiandi, le ciel-terre, ensuite les Xianzu, c'est-à-dire les ancêtres, en deuxième ligne, et en troisième ligne, donc, Tunshi, donc les princes et les maîtres. Donc, le Xunzi établit une sorte de rapport homologique entre ces trois instances ou ces trois niveaux, hein, dont nous allons trouver donc un écho dans le livre de la piété filiale. Donc je vous rappelle ici que, outre le continuum entre le monde cosmique, le cosmos, et le monde humain, hein, donc, qui est établi par cette triade ciel-terre-homme, Tiandiren, et outre le continuum entre le monde des morts et le monde des vivants, hein, qui est établi justement par ces rites funéraires de deuil, il faut souligner aussi le continuum qui relie plus largement la dimension politique et la dimension familiale. En effet, donc, le lien de sang entre le père et le fils, hein, ce lien de sang qui est marqué par la piété filiale, hein, entre le père et le fils, donc c'est un lien organique par excellence, c'est ce lien qui est le modèle archétypal du rapport politique entre le prince et ses ministres, ou le prince et ses sujets. Et c'est ainsi que, sous la dynastie Han, a pu s'établir une homologie entre, d'une part, la piété filiale, Xiao, qui est censé caractériser donc ce rapport du fils au père, hein, et d'autre part la loyauté, Zhong, qui doit illustrer donc le rapport idéal entre le ministre ou le sujet et son prince. Et vous avez donc dans le Xiaojing quelque chose, enfin des deux passages notamment, qui illustre très clairement donc cette homologie entre piété filiale, Xiao, et loyauté, Zhong, donc entre cette dimension familiale et la dimension plus largement politique. Alors le premier passage est placé de nouveau dans la bouche du maître Confucius, Ziyue, « Junzi zhi shi, qin xiao ». Le maître dit la manière dont l'homme de bien sert ses parents, c'est ce qu'on appelle donc la piété filiale. Et elle peut se transférer sous forme de loyauté sur le prince. Donc vous avez cette notion très importante du yi, c'est-à-dire donc on transpose, hein, littéralement donc la piété filiale sur le prince sous forme de loyauté. Et de la même façon, shi xiongti gu shun ke yi yu zhang, donc la manière dont l'homme de bien sert ses frères aînés peut se transférer ou se transposer sous forme d'obéissance respectueuse sur les personnes âgées. Et de la même façon, donc, Ju jia li gu zhi ke yi yu guan, la manière dont l'homme de bien ordonne sa maison ou sa famille peut se transposer sous forme de zhi, de bon gouvernement ou de bonne gouvernance, sur le quan, c'est-à-dire sur une position officielle, sur un poste officiel de charge administrative. Autrement dit, l'homme de bien, c'est celui qui, au fond, gère la communauté humaine, hein, exactement comme il gère sa famille. Shi yi xing cheng yu nei, er ming li yu hou shi yi. Yu hou shi yi. C'est ainsi que la perfection de sa conduite unée, c'est-à-dire à l'intérieur, en privé, chez lui, fait que sa renommée est établie pour la postérité, c'est-à-dire donc les générations à venir. Donc ici, dans ce passage, vous avez très clairement cette idée d'une translation, hein, donc encore une fois d'un continuum, entre ce qui se passe donc dans l'espace familial, hein, vers ce que nous appellerions, nous, l'espace public, hein, c'est-à-dire donc cet espace politique de service au prince et de service à l'État. Et de la même façon, donc, dans le deuxième passage, toujours tiré du livre de la piété filiale, vous avez ceci, donc, zi yu shi fu yi shi mu, er ai tong. Donc, ici, il s'agit, comme l'indique le nom de la section, donc shi, ce sont les officiers, disons, de rang ordinaire. Puisque, en fait, vous avez dans le livre de la piété filiale, des prescriptions de piété filiale qui sont adressées aux différents rangs de la société. Ça part donc du souverain, du fils du ciel, le Tianzi, en passant par tous les grades de la bureaucratie impériale, de la bureaucratie étatique, pour aboutir justement au commun du peuple. Et là, vous avez donc ce qui concerne les officiers de rang ordinaire. Alors, ces officiers, ils s'inspirent de leur manière de servir leur père pour servir leur mère dans un même attachement, une même affection, on pourrait dire un même amour. De la même façon, zi yu shi fu yi shi jun jing tong. Ils s'inspirent de leur manière de servir leur père pour servir leur prince dans une même déférence. Donc vous avez ici un parallélisme que vous voyez apparaître, même sans lire le chinois, donc entre ces deux phrases. C'est-à-dire donc vous avez donc le service de la mère qui s'inspire du service au père dans une affection, un attachement personnel, et de la même façon vous avez un service au prince qui s'inspire toujours du service au père, mais là dans un rapport de non plus d'amour mais de jing, c'est-à-dire de respect. Gu mu qu qi ai er jun qu qi jing jian zhi zhe fu ye, c'est-à-dire donc la mère trouve dans cette relation donc l'amour du fils, et le prince trouve de la même façon la déférence de celui qui le sert dans cette relation, et c'est le fou, donc le père, qui réunit les deux. C'est-à-dire donc le père fait l'objet donc de l'attachement personnel de son fils, de l'amour de son fils, mais aussi de la déférence. Autrement dit, le père est à la fois donc l'objet d'un attachement personnel, mais aussi une sorte de métaphore du prince dans la mesure où il a droit également à la déférence du fils. Gu yi xiao shi jun zhe zhong, yi jing shi zhang zhe shun. Donc ainsi, quand les officiers servent le prince avec toute la piété filiale, c'est de la loyauté. Et quand ils servent leurs aînés avec déférence, c'est ce qu'on appelle donc cette obéissance déférente. Zhong shun bu shi yi shi qi shang, ran hou neng bao qi lu wei er shou qi ji si, gai shi zhi xiao ye. Donc, en ne manquant ni à la loyauté ni à l'obéissance dans leur manière de servir leurs supérieurs, ces officiers ordinaires peuvent alors préserver leurs émoluments et leur position et perpétuer les sacrifices, c'est-à-dire donc perpétuer leur lignée. C'est là la piété filiale des officiers. Donc ici, dans la dernière partie du texte, vous avez une allusion assez claire à des pratiques courante sous la dynastie Han, puisqu'il apparaît que la piété filiale est devenue la première vertu cardinale dès le début des Han. Et petit à petit, elle envahit tous les aspects de la vie sociale, religieuse, politique et institutionnelle du nouvel ordre impérial. Alors, vous avez par exemple le fait que les empereurs Han reçoivent en appellation posthume des dénominations qui comportent toutes la composante xiao, c'est-à-dire filiale, vertu filiale. C'est ce que vous avez, par exemple, dans les sources historiques comme le Shidi, c'est-à-dire les mémoires historiques de Sima Qian, et le Hanshu, c'est-à-dire le livre des Han, qui est le livre, les annales de la dynastie Han. Et dans ces deux sources, vous voyez apparaître l'empereur Wen des Han, qui a régné entre 180 et 157 avant l'ère chrétienne. Vous le voyez apparaître sous le titre Xiao Wen Huangdi, c'est-à-dire donc l'empereur Wen très filial, hein, de la même façon pour les empereurs suivants, l'empereur Jing, Xiao Jing Huangdi, donc qui a régné entre 157 et 141, et le fameux empereur Wu, Xiao Wu Huangdi, donc qui a régné entre 141 et 87 avant la chrétienne. Et de la même façon, une réputation de piété filiale était extrêmement importante socialement parce qu'elle pouvait valoir à une personne et à sa famille des récompenses politiques et sociales de premier plan. Pendant toute la seconde partie de la dynastie Han, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Han orientaux, les Dong Han, hein, c'est-à-dire donc les deux premiers siècles de l'ère chrétienne, le meilleur moyen d'accéder à une position officielle était de se doter au niveau local d'une réputation d'homme filial et intègre. Donc ce titre de Xiaolian, un titre créé en 134 avant l'ère chrétienne, qui permettait à d'obscurs individus vivant dans des régions excentrées, loin de la capitale, qui leur permettait de se faire remarquer et de se forger une carrière officielle. Donc là, vous mesurez l'avantage que cela pouvait représenter d'obtenir ce titre de Xiaolian. On pouvait ainsi bénéficier d'une recommandation d'officiels locaux sur la base d'une conduite filiale exemplaire, réelle ou supposée. Donc vous comprenez bien que l'important n'était pas tant d'être filial que de faire en sorte que cela se voie et que cela se sache. À l'heure actuelle, on pourrait dire qu'il s'agissait d'être filial devant les caméras, hein, parce que sinon c'était à peu près inutile du point de vue de la carrière. Alors, inutile de préciser que ceci a donné lieu à une surenchère de comportements filiaux, plus spectaculaires les uns que les autres, et c'est là que a commencé à s'imposer justement cette pratique du kuoli, c'est-à-dire donc d'excéder les rites, d'en faire plus que les rites n'en demandent, et tout ça pour se faire bien voir des autorités et se faire introduire dans des réseaux influents politiquement. Et alors, vous avez donc dans ces nombreux récits justement de démonstrations de piété filiale, la fameuse histoire d'un individu qui est rapportée donc dans le livre des Han postérieurs, des Han orientaux. Donc cet individu s'était forgé une réputation de piété filiale en portant le deuil de ses parents non pas pendant 3 ans, hein, mais pendant plus de 20 ans, hein, et de la manière la plus visible possible, c'est-à-dire en vivant carrément dans la tombe de ses parents pendant toute cette vingtaine d'années. Évidemment, c'était une manière de se faire largement remarquer. Alors, le résultat, c'est que ce monsieur a été recommandé à un officiel, mais cet officiel, en enquêtant justement sur la réalité de ce comportement filial, a découvert donc la supercherie quand il s'est rendu compte que pendant ce deuil de 20 ans, ce monsieur avait produit ou procréé 5 enfants, ce qui évidemment a ruiné un peu la valeur du dossier et a même valu à cet individu d'être poursuivi en justice. Hein. Donc là, évidemment, enfin quand vous vous adonnez à ces démonstrations de piété filiale, il faut faire bien sûr attention à ce que tout soit à peu près cohérent hein, quand même. Bon. Donc, avec toute cette surenchère de piété filiale, on comprend que des individus rebelles ou insoumis aient mis un point d'honneur à exhiber de façon très démonstrative un comportement ostensiblement contraire au deuil filial. Et vous avez là des anecdotes assez savoureuses dans un recueil qu'on pourrait traduire le Shushoshi, donc de récits mondains, de nouveaux propos, hein, de récits contemporains, qui décrit donc la situation du monde chinois d'après la dynastie Han, après la chute des Han, donc dans les siècles qui ont suivi. Donc, dans ce chapitre, vous avez une anecdote qui concerne donc un personnage du nom de Ranji, qui a vécu entre 210 et 263, donc au IIIe siècle de l'ère chrétienne, et qui est l'un des fameux sept sages du bosquet des bambous, hein, les Zhulin Qixian. Et ces sept sages du bosquet des bambous sont des excentriques qui, comment dire, ostensiblement s'adonnent à l'alcool et qui, probablement à la faveur de l'alcool, sont aussi de très bons poètes. Cette anecdote vous montre donc Randy qui s'apprête à enterrer sa mère et qui, en guise de rite de deuil, commence par faire cuire un porcelet bien gras, hein, feitun, donc, et à boire enfin deux cruches d'alcool, hein, donc pour bien montrer que il se comporte de manière tout à fait excentrique. Et ce n'est qu'après donc qu'il a fait ça, qu'il s'est bien rempli la panse et qu'il a bien bu, donc il commence à procéder au rite funéraire, aux lamentations, etc. Et en fait, il est tellement en réalité submergé par le chagrin qu'on vous dit qu'il finit par cracher du sang et s'abandonner à son chagrin. Donc on a ici l'exemple de quelqu'un qui veut se démarquer par rapport à la norme de conduite ritualiste, mais qui ne peut pas s'empêcher d'exprimer une douleur réelle à la mort de sa mère. Et ce qui est frappant est que ces individus qui refusent de se conformer à la norme rituelle sont appelés donc des fangwaizhishi, hein, c'est-à-dire des hommes littéralement hors limite, hein, c'est-à-dire qu'ils se placent volontairement en dehors du monde balisé par les rites et du monde réputé donc civilisé. Donc en somme, ce que j'ai voulu explorer avec vous, c'est la façon dont ce continuum instauré par les rites du deuil et de la piété filiale crée véritablement un espace, voire un monde que les Chinois appellent tianxia, ce monde de la civilisation, ou soi-disant, qui fait que soit on est dedans et on prétend vivre en être humain civilisé, soit on doit en sortir délibérément si on refuse les normes rituelles, et du coup on se met en quelque sorte au banc de la civilisation. Et c'est ce que exprime très justement de nouveau l'historienne que j'ai citée tout à l'heure, donc Patricia Ibray, dans ce même livre sur le confucianisme et les rites familiaux. Elle dit ceci, donc l'action rituelle contribue ainsi à reproduire la culture, et plus particulièrement la part de culture qui entre rarement dans le choix conscient, la part considérée comme acquise, laissée en dehors des limites du débat. Les principes qui se trouvent véhiculés de cette manière servent le plus souvent à légitimer la structure sociale et politique, rendant ainsi les distinctions sociales partie intégrante de ce qui est perçu comme étant dans la nature des choses. Autrement dit, ce qui est ici dit de façon un peu compliquée, mais c'est justement ce sur quoi insistent tous les textes que nous avons lus récemment, c'est-à-dire de faire passer l'idée que les rites sont quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose, comme disait le Mencius, c'est pas quelque chose qui est imposé de l'extérieur. C'est quelque chose qui procède de l'intérieur. D'où ce souci des textes de rapporter chaque fois donc les rites à un sentiment humain, c'est-à-dire donc cet amour prétendu naturel donc pour les parents, qui se prolonge au-delà de la mort. Et ce que fait le livre de la piété filiale, c'est d'étendre justement ce qui procède de l'intérieur, ce sentiment d'amour pour les parents, de l'étendre à la dimension politique. Donc autrefois, les rois qui émanent la lumière de leur vertu, donc gouvernaient le monde sous le ciel par la piété filiale. Donc c'est par la piété filiale que ces rois gouvernaient tout ce qui est sous le ciel. Et ils n'auraient jamais eu l'impudence de regarder de haut les ministres des petits pays, des xiaoguozhichen, donc les petits pays ou les petites vassalités, et a fortiori donc les ducs, les marquis, les comtes et les barons. Autrement dit, donc ici nous avons des rois sages qui justement ont cette aura lumineuse de vertu, qui comment dire incluent justement dans leur gouvernance vraiment tous les pays, y compris donc les plus petits. Et c'est ainsi qu'ils s'assuraient le huanxin, c'est-à-dire l'adhésion enthousiaste, on pourrait dire, des Wanguo, des 10 000 pays, dans l'entretien du culte rendu à leurs ancêtres royaux. Autrement dit, donc ici, nous avons l'image du Fils du Ciel qui inclut, lorsqu'il rend un culte à ses ancêtres, qui inclut véritablement tous les pays qui sont sous sa gouvernance ou sous son autorité. Donc là, vous avez, si vous voulez, l'échelle la plus étendue, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel, hein, le tianxia. La deuxième étape, c'est zhiguozhi, buganwuyu guangua, kuangyu shiminghu, gude baixing zhihuanxin, yi shiqi xianjun. Donc, ceux qui, ceux qui gouvernaient un pays, n'auraient jamais eu l'arrogance d'humilier les veufs et les esselés, et a fortiori les officiers et les gens du commun. C'est ainsi qu'ils s'assuraient l'adhésion enthousiaste des sans-famille, c'est-à-dire c'est une manière de désigner le peuple, dans l'entretien du culte rendu à leurs ancêtres seigneuriaux. Donc là, ici, nous passons à une échelle plus restreinte, c'est-à-dire l'échelle du pays. Et là, en fait, le souverain d'un pays, quand il possède cette sagesse, il ne se permettrait pas de regarder de haut ou de négliger même les gens les plus humbles, c'est-à-dire donc les veuves, ceux qui sont seuls, ceux qui n'ont aucun pouvoir. Et la troisième étape, c'est l'échelle de la famille. Zhi jia zhe, bu gan shi yu chen qie, er kuang yu qi zi hu, gu de ren zhi huan xin yi shi ji qin. Donc, ceux qui étaient à la tête d'une famille ou d'un clan n'auraient jamais eu l'idée de négliger leurs serviteurs et concubines, et a fortiori leurs épouses et leurs enfants ou leurs fils. C'est ainsi qu'ils s'assuraient l'adhésion enthousiaste des membres du clan ou de la famille dans le service de leurs parents. Donc, vous voyez ici que ces trois étapes sont présentées de façon analogique. C'est ça qui me fait parler de ce rapport homologique entre ces trois échelles. Donc, tout ce qui est sous le ciel, le monde entier, ensuite le pays et ensuite la famille. Et chaque fois, vous avez donc le même type de rapport et le même type de gouvernance sage qui s'exerce. Donc la phrase de conclusion, c'est Fu ran gu sheng ze qian zhi ji ze gui xiang zhi. Dans ces conditions, donc de leur vivant, les parents vivaient dans la sécurité assurée par les membres de leur famille ou de leur clan, et après leur mort, leur manne agréaient les offrandes qu'on leur présentait. Donc ici, vous avez toujours cette phrase qui réunit justement dans un seul mouvement, au fond, le devoir d'entretenir les parents de leur vivant, de leur assurer la sécurité, et après leur mort, de continuer donc à leur offrir des sacrifices. Alors, « 是以天下和平, 灾害不生, 祸乱不作, 故 明王之以孝治天下也如此. C'est ainsi que le tianxia, le monde sous le ciel, était heping, c'est-à-dire en harmonie et en paix. Zaihai pusheng, les désastres et les calamités ne se produisaient pas, et les huoluan buzuo, et les malheurs et désordres n'apparaissaient pas. C'est ainsi donc que ces rois brillants de leur vertu, donc, gouvernaient le monde par la piété filiale. Et ce passage se termine donc très classiquement par une citation du livre des Odes, Shi Yun, Yu Jue De Xing, Si Guo Shun Zhi. Comme il est dit dans les Odes, à celui qui a un comportement éclairé et vertueux, littéralement les quatre pays, les Si Guo, se soumettent volontiers. Les quatre pays où on peut aussi comprendre que ce sont les pays aux quatre orients. C'est une indication qui a son importance parce que, comme nous le verrons, donc, en étudiant l'origine de cette notion de tianxia, de tout ce qui est sous le ciel, on verra que cette vision du monde est très cadrée au sens très propre du terme, c'est-à-dire l'espace terrestre est très souvent perçu comme un espace carré, donc déterminé donc par les quatre orients. Donc nous avions vu dans le traité des rites au chapitre Li Yun, c'est-à-dire l'évolution des rites, nous avions vu placer toujours dans la bouche de Confucius donc un propos qui faisait des rites un moyen d'établir la continuité entre le céleste et l'humain. Alors je relis rapidement la traduction, puisque nous l'avons déjà vu, ce passage. Donc vous avez un dialogue entre un disciple qui s'appelle Yan Yan, qui demande pourquoi est-ce que les rites sont d'une telle importance. Et la réponse de Maître Krong Ziyue, c'est que les rites, c'est ce qui a permis aux anciens rois de seconder la voie du ciel et de réguler les sentiments des êtres humains. Et celui qui perd ce principe de vue est un homme mort, alors que celui qui le préserve vivra. Et vous avez intercalé donc une citation du livre des Odes qui établit donc une comparaison entre un homme dénué de sens des rites avec un rat qui n'aurait pas de membres. Autrement dit, ici, il y a l'idée que sans rite, il n'y a pas d'humanité. De la même façon que on ne peut pas imaginer donc un rat qui soit viable sans pattes. Alors, le passage continue en disant « C'est ainsi que les rites trouvent leurs racines dans le ciel, leur modèle dans la terre et leur ordonnancement dans les mânes et les esprits. Et les rites s'étendent sur tous les aspects donc de la vie humaine, c'est-à-dire les rites funéraires, les sacrifices et même la pratique du tir à l'arc et la conduite du char qui doit être aussi ritualisée, les cérémonies donc de la coiffe virile au moment où on passe à l'âge adulte, le mariage et également donc les audiences et les visites de cour. Et dès lors que les sages rois ont fait connaître ces rites, le monde entier, Tianxia, tout ce qui est sous le ciel, Guo, chaque pays, et Tia, chaque famille, ont pu être gouvernés dans la droiture. Alors, ce qui m'intéresse ici, dans ce passage que je viens de rappeler, c'est donc, encore une fois, ces trois échelles ou ces trois étapes que sont donc le Tianxia, ce qui est sous le ciel, Guo, le pays, et Jia, la famille, qui sont donc dans un rapport homologique. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que vous retrouvez donc ces trois niveaux dans d'autres sources textuelles qu'on peut dater environ de la même époque, c'est-à-dire de la fin de l'Antiquité préimpériale et le début donc de l'ère impériale, c'est-à-dire nous sommes aux alentours donc des 4e, 3e, 2e siècles avant l'ère chrétienne. Alors, ces trois niveaux, Tianxia, Guo, Jia, vous les retrouvez dans un passage du Zhongyong, titre que l'on on a toujours du mal à traduire, qu'on traduit conventionnellement par le milieu juste ou le milieu invariable, à la section 9. Et là aussi, vous avez donc un propos qui est placé dans la bouche du maître, Zi Yue. Tianxia guo jia ke jun ye, jue lu ke ci ye, bai ren ke dao ye, zhongyong bu ke neng ye. Donc, le monde sous le ciel, un pays, une famille ou un clan, donc, ke jun ye, ça peut se gouverner. Des charges et des émoluments, on peut les refuser. Paijun, c'est-à-dire littéralement des lames blanches, donc des lames d'armes blanches, des lames nues, on peut même marcher dessus. Mais, donc le parfait équilibre, cet invariable milieu, personne n'en est capable. Donc ici, vous avez une phrase qui reprend donc ces trois niveaux, c'est-à-dire que, au fond, gouverner une famille, gouverner un pays et même gouverner le monde entier, ça peut, c'est possible. C'est une tâche difficile, mais c'est possible. De la même façon, donc, des charges et des émoluments, on peut les refuser. Ça se voit pas très souvent, mais c'est possible. De la même façon, vous avez des fakirs qui sont capables de marcher sur des lames nues, tranchantes. Mais il y a une chose qui n'est pas atteignable, c'est justement ce zhongyong, cet équilibre parfait. Et enfin, vous avez ces mêmes trois niveaux dans une citation du Mengzi, c'est-à-dire le Mencius, au livre 4, à la section A5, où on entend le maître Meng, donc Mencius, Meng Ziyue, dire ceci, et c'est une phrase qui est très très souvent citée, « Ren yu heng yan, jie yue, tianxia guo jia, tianxia zhi ben zai guo, guo zhi ben zai jia, jia zhi ben zai shen. » Donc, maître Meng dit, les gens ont cette expression consacrée. Donc, tianxia, donc le monde sous le ciel, guo, le pays, jia, la famille. Et ensuite, Mengzi explicite donc le rapport entre ces trois niveaux en disant donc la racine du monde, vous retrouvez ici ce terme de pun que j'ai eu l'occasion de commenter, donc ce fameux graphème de l'arbre, hein, avec le trait en dessous qui veut dire donc la racine. Donc la racine du monde est dans le pays. La racine du pays est dans la famille et la racine de la famille est dans le shen, la personne, sous-entendu donc du chef de famille. Autrement dit, ici donc, à travers cette notion de pen, c'est-à-dire d'un enracinement, vous avez donc ce rapport de continuité qu'il y a entre ces trois niveaux auxquels vient s'ajouter donc le niveau de la personne du chef de famille ou du souverain donc du pays ou du monde. Et je mets juste à titre de rappel donc cette citation du livre de la piété filiale du Xiaojing, hein, où vous retrouvez donc un petit peu cette même idée. Vous aviez ce propos toujours placé dans la bouche du maître Zi Yue, Fu Xiao De Zhi Ben Ye Jiao Zhi Suo Ye Sheng Ye. Donc la piété filiale, c'est la racine de toute vertu, hein, et donc c'est de là que naît tout enseignement, toute sagesse. Fu Xiao Shi Yu Shi Qin Zhong Yu Shi Jun Zhong Yu Li Shen. Donc la piété filiale commence dans le service des parents, elle passe au milieu donc par le service du prince et elle se termine dans littéralement l'établissement de soi. C'est-à-dire, vous avez ce terme de li qui veut dire littéralement mettre debout ou se tenir debout. Donc le li shen, c'est une notion importante dans le confucianisme, c'est-à-dire que tout commence et finit par là, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de l'humanisme confucéen, c'est-à-dire donc il s'agit de s'établir soi-même en tant qu'être humain, hein, vraiment se tenir debout. Alors, donc, toutes ces citations que nous venons de lire font écho au début non moins fameux d'un texte devenu canonique, à savoir donc le Da Xue, que l'on traduit généralement par la Grande Étude. Et c'est un texte auquel a été consacré un ouvrage collectif que j'ai dirigé au Collège de France et qui vient tout juste de paraître. Donc je voulais apporter, pas simplement pour faire de la publicité, mais aussi parce qu'il entre tout à fait dans notre propos. Alors, ce texte de la Grande Étude, c'est quelque chose de tout à fait unique parce que vous avez ici donc ce texte intégral qui tient donc sur une double page. Alors, ce petit texte a été véritablement en fait a eu une histoire tout à fait exceptionnelle. Alors non seulement en Chine même, mais disons dans toute la zone d'Asie orientale où la culture chinoise a eu quelque influence, et en particulier donc en Corée, où donc Da Xue se prononce Teihak, et au Japon. En japonais, donc Da Xue donne Daigaku. Et c'est pour cela que donc nous avons intitulé cet ouvrage Lecture et usage de la Grande Étude, notamment donc en Chine, mais aussi en Corée et au Japon. Alors, c'est certainement donc l'un des textes du corpus canonique confucéen qui a été le plus fréquemment et largement commenté. Alors, sur une échelle tout à fait exceptionnelle, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Alors, dans le temps, parce que C'est un texte qui a inspiré donc des siècles de commentaires pendant au moins un millénaire, c'est-à-dire au moins depuis le XIe siècle jusqu'à aujourd'hui, comme on va le voir, et dans l'espace, parce que, comme je viens de le dire, il a fait l'objet de nombreux et importants commentaires donc en Corée, au Japon et aussi au Vietnam. Et évidemment, on peut aussi maintenant se demander pourquoi nous avons consacré un aussi gros livre à un aussi petit texte. Alors, il faut dire que cet ouvrage provient donc d'un colloque international qui s'est tenu au Collège de France il y a quelques années et qui a choisi donc de se consacrer sur la grande étude comme un texte à part entière. Et alors là, en fait, il y a un parti pris qui n'est pas tout à fait neutre, étant donné que ce texte de la grande étude faisait originellement partie du Li Ji, c'est-à-dire du traité des rites, hein, dont nous avons tellement parlé ces derniers temps. Mais depuis le début du deuxième millénaire, et notamment depuis l'intervention donc de ce personnage important dans l'histoire intellectuelle chinoise, depuis Zhu Xi, 1130-1200, depuis Zhu Xi, qu'on a pu comparer à Thomas d'Aquin, en tout cas, en fait, on peut dire que Zhu Xi a joué un rôle dans l'histoire du corpus canonique. On a pris l'habitude donc de lire cette grande étude dans l'optique imposée par Zhu Xi. Donc Zhu Xi, en fait, s'est permis d'opérer une sorte de chirurgie radicale en modifiant donc l'ordre des sections, voire en inventant des sections qui n'y avait pas, enfin, dans le texte original, et donc qui a fait de la grande étude un texte tout à fait nouveau, avec donc un statut autonome. Il a donc dégagé la grande étude du livre des rites, en même temps qu'un autre chapitre, qui est ce fameux Zhongyong, dont nous venons de citer un passage. C'est ce milieu invariable. Donc Zhu Xi a isolé ces deux chapitres du traité des rites auxquels il a adjoint donc les entretiens, le Luanyu, donc les entretiens de Confucius, et le Mengzi, donc ce livre attribué à Mencius. Et il a créé ainsi une sorte de nouveau corpus canonique que l'on connaît en chinois sous le titre des quatre livres, les Se Shu, en plus des cinq classiques, les Wu Jing, hérités donc de l'époque Han.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec aujourd'hui Han Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours de Han Cheng. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.